Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à la SMJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabagne, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec ma consoeur Laurine Melka, professeure à Lille, à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme le stationnement à Marseille, on ne s'interdit rien. Bonjour Laurine.
Bonjour Étienne. C'est vrai qu'on ne s'interdit aucun sujet, c'est le cas encore aujourd'hui.
Oui, avec un sujet très sensible, celui de la colonisation. On se souvient peut-être de la vive polémique de 2005, quand le gouvernement avait souhaité inscrire dans la loi la nécessité d'enseigner, je cite, « les bienfaits de la colonisation dans les programmes scolaires ». Loi abrogée par la suite par le Conseil constitutionnel quelques mois plus tard.
Ce matin, Jacques Chirac est sorti de son silence. Il veut faire taire la cacophonie politique autour de ce fameux article 4 qui impose au manuel scolaire de reconnaître le rôle positif de la colonisation française.
Face à la polémique, Nicolas Sarkozy avait dû reporter son déplacement à la Martinique où il y a eu de nouvelles manifestations dans la soirée contre le texte. La loi qui reconnaît les effets positifs de la colonisation française outre-mer en passe d'être enterrée.
On ne va pas ici revenir sur cette loi, ni faire une liste des pour et des contre de la colonisation, ce serait absurde et insultant d'autre part. Que les choses soient claires, absolument rien ne justifie la colonisation, rien ne peut justifier toutes les guerres, tous les massacres et bien sûr l'idéologie nauséabonde qui ont accompagné la colonisation. Pourtant, les débats de 2005 ont été très animés entre les partisans de cette loi d'un côté et les détracteurs de l'autre, qui chacun de leur côté ont mobilisé de nombreux arguments politiques, sociaux, mais aussi peut-être surtout économiques. Alors que l'exercice intellectuel est extrêmement périlleux. Il est quasiment impossible de déterminer ce qu'aurait pu être le développement économique des différentes régions du monde sans la colonisation. Généralement, en économie, on procède par comparaison pour déterminer l'importance d'un phénomène quelconque.
Sauf que la colonisation a concerné toutes les régions du monde, soit en tant que colonisateur, soit en tant que colonisé.
Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est une analyse historique de la colonisation en s'appuyant sur des éléments statistiques. Et depuis quelques années, c'est ce que fait une équipe d'économistes qui a déterré plus de 1800 archives de l'administration coloniale pour compiler et construire des statistiques très révélatrices sur ce qu'a été la colonisation. Ce qui permet de rétablir quelques vérités sur notre passé et de mieux comprendre le monde post-colonial dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Et quel est le bilan économique de la colonisation ?
J'ai eu la chance d'interroger trois économistes de cette équipe de recherche, Élise Huillery, Sandrine Mesplesson et Denis Cognot.
Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman.
Arabo-musulman.
Ils et elles ont accepté de révéler en avant-première les principaux enseignements de leur recherche.
Ah oui, donc c'est un scoop cet épisode.
Oui, un scoop si tu veux, mais à notre niveau, ça reste de la recherche en économie. Alors ils vont bientôt publier leurs résultats, il leur reste encore à traiter une partie des archives coloniales de l'Afrique du Nord. Leurs premières analyses permettent tout de même d'avoir une vision beaucoup plus précise de la colonisation. Et on va se concentrer dans cet épisode sur la période du 19e et 20e siècle avec la colonisation de territoires africains et asiatiques par les pays européens, essentiellement par le Royaume-Uni, la France, mais aussi la Belgique, le Portugal, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne.
Est-ce que tu pourrais tout d'abord, Étienne, nous faire un petit panorama de la situation économique à la fin du 18e siècle ?
Premier élément, les pays européens ne sont pas beaucoup plus riches que le reste du monde. Ce sont deux économistes qui le disent, Angus Maddison et Paul Berock. D'après leurs calculs, en 1750, le PIB par habitant des pays européens serait seulement 10 à 30% plus élevé que le PIB par habitant dans le reste du monde. C'est ce que confirme Denis Cognot, économiste et directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
En fait, on part d'une situation fin du XVIIIe siècle où
vu de loin, il n'y a pas encore une très grande inégalité entre les différentes régions du monde. Et d'ailleurs, les Européens, à l'époque, ne se perçoivent pas particulièrement comme, comme très puissants, et, notamment lorsqu'ils font des voyages en Asie ou même en Afrique. Voilà, ils voient qu'il y a des civilisations qui ont encore, sont capables de résister militairement très fortement encore aux intrusions européennes.
Le cas de l'Afrique est quand même particulier dans ce tableau économique mondial, comme nous l'explique Martial Zebilinga. Il est professeur d'économie et de gestion, membre du comité scientifique de l'histoire générale de l'Afrique. Il a une connaissance fine de l'histoire économique des pays africains.
Quand on arrive au 19e siècle, on est en réalité déjà sur 3 siècles de traite négrière. Bien sûr, c'est le 18e siècle qui aura été le plus intensif quand on parle de traite négrière transatlantique. Mais en fait, la traite négrière commence tout doucement, transatlantique en tout cas, elle commence tout doucement au 15e siècle. Et les effets sur la société vont être croissants. Et quand on est au 19e siècle, on est déjà sur une période de forte régression économique, mais également de forte régression de la population. Quand on arrive au 19e siècle, on a une Afrique qui est déjà extrêmement affaiblie démographiquement. Donc on dit, et ensuite, et forcément économiquement, c'est-à-dire qu'on est dans une économie de guerre, on est dans une économie d'insécurité, et donc l'insécurité, la guerre réduisent la population et réduisent aussi l'éventail des activités économiques.
Et cet esclavage est une composante importante du commerce international des pays européens qui vont acheter des esclaves en Afrique noire pour les faire travailler dans les Caraïbes ou sur la côte est de l'Amérique du Nord, principalement dans des champs de canne à sucre et de coton.
Je suis né libre. J'ai vécu à New York avec ma famille.
Passage avec ta mère.
Avant d'être trahi.
À Solomon.
Enlevé et vendu comme esclave.
Ce qui va permettre aux pays européens de bénéficier d'une matière première à un prix très abordable, surtout pour le coton. À tel point qu'on peut affirmer que l'esclavagisme a contribué à la révolution industrielle européenne. C'est ce que rappelle Denis Cogniaux.
Quand on raconte la révolution industrielle en Angleterre, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile de d'enlever complètement le caractère crucial du coton produit aux États-Unis. Le boom de l'économie industrielle anglaise, c'est essentiellement l'exportation des textiles. Après, c'est pas que d'autres industries vont pas être entraînées, vont pas suivre, et donc il y a pas que le coton et le textile. Mais sans le coton et sans le textile, c'est un peu difficile de penser la révolution industrielle anglaise.
Et c'est évidemment la révolution industrielle qui apporte un avantage économique incontestable aux pays européens, Royaume-Uni en tête, ce qui se traduit notamment par une puissance militaire supérieure.
Une partie des historiens, et à mon avis à juste titre, donne des raisons beaucoup plus multifactorielles à la colonisation des 19e et 20e siècles. Il y a des intérêts économiques, mais qui sont pas, disons, complètement éclatants. Il y a des intérêts nationalistes. On est à la grande phase des nationalismes européens qui va dégénérer dans les deux guerres, dans la Première Guerre mondiale en tout cas. Et donc l'idée, c'est aussi que si un pays, on sait jamais, hein, si les Allemands s'installent ici, autant s'installer aussi, parce que peut-être que ces pays vont devenir intéressants, mais au départ, d'une certaine manière, ce qu'on appelle le scramble for Africa en anglais, la course à l'Afrique, ça va être un peu préemptif, on peut dire. C'est-à-dire qu'on va préempter des territoires, sans savoir exactement si vraiment ils vont avoir une valeur économique particulièrement profitable, mais on ne sait jamais si, pour ne pas être le dernier à détenir son bout d'Afrique. Hein.
Donc si je comprends bien, les raisons économiques ne sont pas si importantes pour comprendre la volonté des pays européens de se constituer un empire colonial.
Effectivement. Il y a souvent cette idée que les pays européens se seraient précipités pour envahir et coloniser des territoires riches de ressources et de matières premières. Mais à l'époque, de quoi l'Europe avait-elle besoin pour alimenter sa révolution industrielle? Eh bien, essentiellement de deux ressources, le charbon et le minerai de fer. Or, ce sont deux ressources abondantes sur le territoire européen. Et selon Paul Béroc, à la veille de la Première Guerre mondiale, la production européenne de charbon couvrait 100% des besoins de l'Europe et la production européenne de minerai de fer couvrait 98% des besoins de l'Europe. Donc, pas besoin de se fournir ailleurs.
Il y a quand même eu quelques ressources à exploiter dans les pays colonisés. Le café, le sucre, le caoutchouc, les épices.
C'est vrai, mais ces ressources ne sont pas indispensables au développement industriel des pays colonisateurs.
Et le pétrole ?
Alors, le pétrole. Au départ, le pétrole n'a aucune utilité à la fin du 19e siècle. Ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale que le pétrole devient une ressource très importante pour l'économie. En gros, c'est au moment même où les ressources des pays colonisés deviennent très stratégiques, surtout le pétrole, que ces pays-là réclament leur indépendance. Aujourd'hui, avec notre regard d'individu du 21e siècle, on sait que ces territoires regorgent de ressources importantes. Mais si on se remet dans le contexte du début du 20e siècle, la situation et la vision des contemporains de l'époque est bien différente.
Il y a quand même des colons ou des entreprises européennes qui vont s'installer pour construire des usines, exploiter les terres et les ressources.
Je suis Lucien Bramard, ton nouveau directeur. Mais je suis avant tout ton ami.
Merci, Sid.
Pour sceller notre amitié, je vais te donner quelque chose. Regarde. C'est notre Raïs à nous. C'est M. René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami.
Oui, bien sûr. Alors ça dépend des territoires. Mais il est vrai que la perspective de profit a pu attirer quelques acteurs économiques. Notamment quand les prix étaient élevés, c'était le cas du sucre et des épices, qui étaient encore des produits de luxe en 1870. Mais comme tout le monde se met à les produire, eh bien les prix commencent à baisser à la fin du 19e siècle.
Donc les profits réalisés par les colons ne sont pas si élevés que ça.
Alors si, quand même, certains se sont bien sûr considérablement enrichis. Mais on manque de données statistiques pour répondre à cette question de manière précise.
Ma vie est ici.
C'est ça que j'ai compris.
En plus, il y a beaucoup de pognon à se faire dans le coin.
Ce qu'il faut bien comprendre sur les empires coloniaux, c'est que ce sont des unions douanières. Il n'y a quasiment aucune taxe sur le commerce de marchandises entre les métropoles et leurs colonies. Et ça a permis aux métropoles de vendre leurs biens manufacturés aux pays colonisés à des prix corrects, c'est-à-dire des prix sans taxes douanières.
L'Algérie, par exemple, exportait essentiellement du vin et du blé vers la métropole et importait des biens manufacturés. C'est le cas de toutes les colonies importaient essentiellement des biens manufacturés de consommation ou des biens d'équipement. C'était d'autant plus vrai dans les colonies qui étaient des colonies de peuplement, comme l'Algérie, comme la Tunisie ensuite, et le Maroc, parce que là, il y avait une population européenne, française pour l'essentiel, si je parle des colonies françaises, qui était là et qui achetait énormément de produits de la mère patrie ou de la métropole. Et en réalité, ce système est très important, puisqu'en fait, même dans les colonies qui n'étaient pas des colonies de peuplement, il y avait toujours une petite minorité de Français qui touchaient des très hauts salaires, dont le panier de consommation était largement composé aussi de produits importés. Sans compter le fait qu'à côté de ça, les politiques de colonisation supposaient de construire des chemins de fer, de construire des routes, etc., pour donner accès, notamment pour débloquer ou désenclaver les régions d'exportation de matières premières, et que tout ça consommait de l'acier, des rails produits en métropole.
Donc les territoires colonisés ont bien représenté des débouchés pour les entreprises des métropoles.
Oui, mais surtout pour les vendre aux colons et aux fonctionnaires installés dans les colonies. Pas tellement pour les populations natives qui n'avaient pas forcément le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter ces biens manufacturés.
Oui, ça fonctionne en vase clos. La France paie des fonctionnaires dans les colonies qui ensuite achètent les biens produits en France.
Sauf que ce n'est pas forcément la France qui payait ses fonctionnaires installés dans les colonies. Oui, et on aborde ici la question du coût de la colonisation pour le colonisateur, en distinguant deux types de coûts. D'un côté, les coûts militaires, de conquête, d'occupation et de guerre, et de l'autre, les dépenses civiles pour financer l'administration, la construction d'infrastructures et payer les fonctionnaires. Et la spécialiste de cette question, c'est Élise Huillery, économiste à Paris-Dauphine et affiliée au laboratoire JIPAL. Elle nous détaille le coût total que ça représentait pour la France.
Pour l'instant, le bilan qu'on a tiré en faisant vraiment ce calcul précis année par année, c'est que au total, il y aurait 2,3% du budget français qui aurait été investi dans les colonies Mais l'essentiel de ces 2,3%, c'est important de le préciser, ce sont des coûts militaires. En fait, 2 points, donc 2% parmi ces 2,3. 0,3 sont des investissements en infrastructure, en santé, en éducation, des investissements pour le civil. Et puis 2% sont des dépenses militaires liées au coût de la conquête, qui a été parfois très très élevé, surtout pour l'Indochine, mais enfin le coût de la conquête a été relativement élevé partout finalement, et le coût de l'indépendance, qui là pour le coup a varié de manière extrêmement importante, avec un coût énorme en Indochine évidemment, parce qu'il y a eu la guerre d'Indochine, donc de 46 à 54, qui a coûté très 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 cher, et puis un coût très très faible pour par exemple l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique équatoriale, qui ont été dont l'indépendance a été acquise de manière pacifique, sans coût militaire.
Donc 2% du budget français en dépenses militaires et seulement 0,3% en dépenses civiles, c'est très peu. Ce qui veut dire que les colonies n'ont pas reçu beaucoup d'argent de la France pour se développer, construire des routes, des chemins de fer, etc.
Non, effectivement.
Alors comment est-ce qu'on a pu financer ces constructions ?
Eh bien, tout simplement en faisant payer les populations locales.
Pour l'Afrique de l'Ouest, pour laquelle j'ai vraiment pu calculer ça, j'estime sur l'ensemble de la période coloniale, j'estime à 2% la part des dépenses civiles qui a été financée grâce à l'apport des Français. Donc 98% des dépenses civiles ont été financées par les ressources prélevées localement sur les populations, essentiellement par la capitation, c'est-à-dire cet impôt qui est un impôt forfaitaire où chaque personne âgée de plus de 16 ans ou 18 ans selon les époques et les pays devait payer une somme fixe. Quels que soient évidemment ses revenus, parce qu'on ne collectait pas les revenus des personnes pour pouvoir faire un impôt progressif comme l'impôt sur le revenu jusqu'à 1930 à peu près. Et donc la plupart des recettes étaient prélevées sur les populations. Il y avait d'autres recettes qui provenaient des taxes à l'import et des taxes à l'export. D'autres recettes, mais beaucoup moins importantes, qui provenaient des taxes sur le chiffre d'affaires, des quelques entreprises qui existaient. Et donc, c'est un ensemble de taxes qui a payé pour 98% des dépenses civiles qui étaient faites pendant la colonisation et seulement 2% qui étaient données par le contribuable français via des subventions au budget général.
Oui, il y a bien eu des constructions de routes, d'hôpitaux, de chemins de fer dans les territoires colonisés. Mais ce sont surtout les populations locales et non les métropoles qui ont financé ces constructions. Sachant qu'une partie de ces budgets servait en fait à payer les fonctionnaires venus de métropole.
Les budgets étaient massivement utilisés pour payer les salaires des administrateurs coloniaux qui étaient des Français et dont les salaires étaient évidemment disproportionnellement élevés par rapport aux salaires locaux, on l'imagine bien, puisque un fonctionnaire français avait non seulement le même salaire que ce qu'il aurait eu en France, dans l'administration française, mais il était souvent augmenté, parfois doublé, par les primes d'expatriation qui sont offertes aux fonctionnaires qui sont expatriés. Donc ça représentait des sommes qui étaient absolument délirantes par rapport aux capacités fiscales, aux capacités contributives locales et aux salaires locaux. On le voit par exemple quand on voit l'écart dans les budgets entre le salaire d'un enseignant français avec le niveau français de salaire plus la prime et le salaire d'un enseignant sénégalais, malien, burkinabé qui enseigne dans la même école au même niveau mais dont le salaire n'a aucun rapport avec le salaire du français.
En tout cas, je peux vous dire qu'à l'époque, eh ben, on savait vivre, on savait s'amuser.
Donc il ne restait pas beaucoup d'argent pour tout le reste.
Alors il y a eu des constructions, bien sûr, et les économistes ont essayé de mesurer ce taux d'équipement des territoires colonisés. On écoute sur ce point Sandrine Mesplesson, économiste et également membre de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement.
On a essayé d'avoir quelques chiffres, par exemple le nombre de mètres de route pour 1000 habitants en 1955, il était de 15 en France et dans l'Empire, il était de 5, donc un rapport de 1 à 3, ce qui est pas mal finalement, parce que c'est peut-être vu les niveaux de de départ. Chemin de fer, pareil, on avait presque un mètre pour 1000 habitants en France en 1955 versus 0,2 pour l'Empire.
Ces équipements ne sont pas négligeables. Ça a permis le développement de certaines villes, notamment autour des gares ferroviaires, autour des ports, le long des axes principaux de transport. Mais là aussi, il faut nuancer l'apport de ces infrastructures pour les populations locales. Car les chemins de fer et les ports étaient surtout conçus et utilisés pour acheminer les troupes militaires et les ressources exploitées par les colons.
Juste sur cette question des ressources et des secteurs économiques mis en valeur dans les colonies. Tu donnes uniquement des exemples d'exploitation agricole. Vin, blé, sucre, coton, ou d'exploitation minière. C'était les principales activités économiques sous la colonisation. Est-ce que ce ne serait pas une forme de spécialisation qu'aurait pu empêcher ces pays de s'industrialiser ?
Alors, certains pays colonisés avaient le potentiel pour s'industrialiser dès le 18e ou 19e siècle. C'est le cas de l'Inde, par exemple. Au 18e siècle, l'Inde produisait beaucoup de textiles et l'exportait en Europe car c'était des tissus très prisés. Tout change au 19e siècle avec la colonisation, mais surtout avec l'arrivée du textile anglais moins cher. Car les coûts de production sont très faibles, le coton américain est très abordable, on l'a dit, et les usines sont fortement mécanisées. Selon Paul Béroc, l'Inde aurait connu un taux de désindustrialisation de 55 à 75% au 19e siècle. L'Inde a donc connu un recul industriel du fait de la colonisation. Et on observe ce phénomène pour certains pays africains, comme nous l'explique Martial Zebilinga.
Si vous prenez des pays comme Bénin, ce qu'on appelait la région du Bénin, un pays qui en fait c'était une partie du Nigeria, une partie du Bénin actuel, ils produisaient beaucoup de textiles, d'étoffes anciennes. Eh bien, cette production-là a été très vite dominée par les cotonnades qui venaient d'Europe ou qui étaient achetées par les compagnies coloniales et qui les vendaient en Afrique. Alors qu'avant cette période-là, il y avait une production locale de textiles qui s'échangeait aussi, qui circulait en Afrique. On trouvait en Afrique centrale des textiles qui venaient d'Afrique de l'Ouest et les textiles du Bénin, on les trouvait également jusqu'au Ghana. Donc, évidemment, c'est avec les activités coloniales, eh bien, ces productions-là, ces savoir-faire ont régressé progressivement. Donc, il y a effectivement une désindustrialisation qui est assez, je dirais, fatale.
Cette profonde transformation des économies africaines en économies de rentes agricoles, ça peut être le support d'une possible révolution industrielle avec l'arrivée de nouvelles techniques agricoles, d'engrais, de fertilisants et de machines agricoles, etc. Ce progrès technique peut profiter aux économies locales à condition de réinvestir les profits dans de nouveaux secteurs. Et sur ce dernier point, l'économiste Martial Zebilinga est beaucoup plus sceptique pour le cas des économies africaines.
Fondamentalement, on n'est pas sorti d'une économie de rente. C'est-à-dire qu'on a augmenté, on a élargi en fait la gamme des produits de rente et on reste dans la logique d'une économie coloniale puisque le taux de transformation interne de la valeur ajoutée industrielle reste très faible, il reste autour de 10-12%. Et si on prend sur une période de 40 ans, ça a très peu évolué. C'est-à-dire si on prend les années 2010 et on revient jusqu'aux années 70, eh bien le taux de transformation en matière industrielle est resté à peu près le même. Donc on a toujours effectivement des économies primaires et ça c'est ce qu'on peut appeler des effets d'hystérèse. C'est-à-dire que lorsque vous avez des économies qui ont été historiquement, qui sont rentrées sur un chemin. En fait, il est extrêmement difficile à court et moyen terme de reconvertir les économies si on n'a pas vraiment de plan de transformation suffisamment puissant, ce que les ajustements structurels ont interdit. Et donc on se retrouve actuellement encore dans une configuration d'économie primaire.
Et pour terminer sur cette question des équipements et infrastructures construites, qu'en est-il des écoles ?
Il y a de nombreuses écoles construites dans les territoires colonisés, mais comme pour le reste des équipements, ce sont avant tout des établissements réservés aux enfants de colons et de fonctionnaires. Les enfants des populations locales accèdent très peu à ces écoles.
Donc en termes de niveau, on se retrouve quand même avec des taux de... on ne parle que de taux de scolarisation primaire. Enfin, le secondaire était encore très 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 marginal. Donc vous retrouviez avec un taux de scolarisation primaire en 1925, donc qui est 1925 est une année où l'Empire est acquis, ça devrait rouler, on est entre les deux guerres, etc. Il n'est que de 3,5% en moyenne pour l'Empire, que de 4% pour l'Afrique du Nord, et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 1,7% d'après nos calculs. Donc c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout.
C'en est trop dans la matinée ! Dis-moi, ce n'est pas vrai !
Alors que pendant ce temps-là, le taux de scolarisation des petits Français et Françaises en métropole est de 100% en 1925. Le contraste est saisissant. Il faut attendre les années 1950 pour voir le taux de scolarisation progresser pour atteindre 14,5% en moyenne sur tout l'Empire français.
Ça reste toujours très faible et très loin de la propagande officielle de l'État français qui proclamait faire œuvre de civilisation.
On ne peut pas mentir éternellement au peuple.
Mais si on peut, on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple.
On est bien d'accord. Il est quand même important de dire que la situation de la colonisation change assez fortement après la Seconde Guerre mondiale. Les dépenses deviennent beaucoup plus importantes pour les métropoles, que ce soit les dépenses militaires et civiles. Les constructions connaissent une forte accélération. Les taux d'équipement et de scolarisation progressent vraiment. Les ressources premières deviennent stratégiques. Le tableau d'ensemble change considérablement. Et c'est à ce moment-là que tous les pays colonisés, ou presque, obtiennent leur indépendance.
Et quels sont les niveaux de développement de ces pays, de nouveau indépendants, par rapport à la situation précoloniale ? Comme on a dit en introduction, l'écart n'était pas flagrant au XVIIIe siècle entre les pays de l'Europe de l'Ouest et le reste du monde. Qu'en est-il dans les années 60 ?
Cet écart a considérablement augmenté. Selon Paul Bayrock, le revenu réel par habitant dans les pays à nouveau indépendants est 5 à 6 fois inférieur à celui des pays anciennement colonisateurs. Pour conclure, il est important de confronter tous les arguments classiques autour du colonialisme aux analyses scientifiques pour éviter les nombreuses contre-vérités qu'on peut encore entendre. Non, la colonisation n'a pas été une gigantesque exploitation des ressources des pays colonisés. Non, la colonisation n'a pas été nécessaire au développement industriel de l'Occident. Non, la colonisation n'a pas été un lourd fardeau budgétaire pour la France. Il y a tout de même eu les dépenses militaires importantes, mais les transferts monétaires civils sont restés marginaux. Non, la France n'a pas financé la construction d'infrastructures dans les pays colonisés. Ce sont les populations locales qui ont financé ces constructions à travers des impôts. Et non, la scolarisation et l'alphabétisation des populations natives n'a pas été forte. Elle est restée ridiculement faible, notamment dans l'Empire français. La science économique n'en a pas tout à fait fini avec la colonisation. Il reste encore à savoir quelle a été la profitabilité précise des entreprises menées par les colons, ou encore quels ont été les intérêts économiques des membres du parti colonial en France. Mais l'histoire économique de la colonisation a désormais des sources solides et des statistiques claires qui sont à connaître et à diffuser. Même s'il demeure une dimension que la science économique ne pourra jamais évaluer, à savoir le coût moral de la colonisation.
Splash est une émission d'Étienne Tabaille, animée et écrite avec Laurine Melka, produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galligani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast, et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite.